Bonjour, il m'a été demandé de faire une présentation un peu transversale à partir de cette recherche sur des établissements très, très différents finalement, puisque dans le panel d'établissements sur lesquels nous travaillons, il y a des internats d'excellence, des établissements de raccrochage scolaire, le micro-lycée, le CLEPT, un établissement expérimental, le collège-lycée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair, qui reçoit des élèves assez divers, et un établissement en RRS. Le regard transversal auquel je vais m'efforcer, fatalement, ne parle pas de tous les aspects de tous les établissements, ça c'est plus transversal. Et je vais plutôt faire émerger des questions qui me semblent soit explicitement posées, soit méritées d'être posées à l'observation de ces différents établissements. Je vais procéder en deux temps. D'abord, une sorte de mise à plat, où j'évoquerai le profil des élèves, les soutiens qui leur sont prodigués et les résultats. Et dans un second temps, j'évoquerai quatre grandes questions, quatre grands thèmes qui me semblent être présents, soit explicitement, soit en filigrane, dans ces établissements. Donc d'abord, une mise à plat. J'évoque d'abord les profils d'élèves. Les profils d'élèves dans ces différents établissements ont, même quand on prend un seul établissement, ils ont peu de choses en commun. Même pas l'origine sociale. Oui, dans certains internats d'excellence, tous les élèves sont d'origine populaire ou quasiment. Mais ce n'est pas le cas quand on prend l'ensemble du panel de nos établissements. Ils ont peu de choses en commun également, les élèves qui sont dans les établissements pour raccrocher. Ils ont des parcours extrêmement divers. Au fond, ils ont une seule chose en commun. Tous ces élèves de la quasi-totalité des établissements qui nous intéressent, c'est qu'ils sont tous volontaires pour être là. Les raccrocheurs, les élèves d'internat d'excellence. Mais volontaires pourquoi ? Certains pour s'engager ou se réengager dans les études, d'autres c'est plutôt pour échapper au quartier, d'autres encore c'est pour bénéficier d'un cadre aidant, de ce qui a été appelé tout à l'heure un espace protégé, même au prix de l'éloignement de chez soi. Mais au fond, un public qui est assez divers, des profils assez variés, et donc des élèves qui ont une aisance plus ou moins grande dans ce que Patrick Rayou appelait hier les différents registres cognitifs, culturels ou symboliques identitaires. Et cette diversité des profils est repérable dès le recrutement ou dès le premier mois. Alors, Carole Daverne a évoqué les trois profils à l'internat de Noyon, qu'on pourrait probablement, à peu de choses près, repérer dans d'autres établissements. Je pense à l'internat d'excellence de Barcelonnette, mais il n'est sans doute pas le seul. Des élèves qui sont minoritaires, vraiment porteurs d'un projet. D'autres élèves également minoritaires qui sont des jeunes que l'on peut caractériser comme élèves à problème, comme jeunes à problème. Et puis, une majorité d'élèves qui manque de cadre et dont, pour une partie, l'appétence scolaire reste à construire. Diversité de profils aussi dans les établissements pour raccrocher les décrocheurs. Patrick Rayou nous a parlé hier de décrocheurs paradoxaux, en fait, des élèves qui ont tout pour ne pas décrocher et qui ont finalement décroché, mais qui ont finalement un background culturel qui les prépare tout à fait aux études. D'autres jeunes qui n'ont jamais accroché à l'école, d'autres encore, et je ne finis pas la liste, des élèves qui vivent dans des conditions sociales dignes d'un roman de Zola ou d'un roman de Dickens. Voilà pour les profils. Les soutiens qui leur sont apportés sont très diversifiés. On devrait plutôt, à la suite de l'exposé de Laurent Lescouarche d'hier, parler d'étayages extrêmement divers. Certains de ces étayages sont pensés explicitement pour soutenir d'une manière ou d'une autre, et d'autres ne sont pas forcément pensés pour soutenir ou pas désignés comme tels. Ils ne sont jamais désignés comme soutien, mais pourtant contribuent fortement à soutenir les élèves, à les étayer, à les aider à se construire. Et dans l'un ou l'autre de ces dispositifs, on travaille sur l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre de ces dispositifs, ou parfois tous ensemble, le cognitif. Pardon, je me suis emmêlé. Dans ces dispositifs, on travaille sur l'un ou l'autre des registres, et parfois les registres ensemble, cognitifs, culturels ou symboliques. Alors le cognitif. Avant d'aborder le culturel et le symbolique identitaire. Le cognitif est très soutenu à travers des études encadrées, des séances qui s'appellent explicitement du soutien ou encore du tutorat, il peut y avoir encore d'autres noms. Il s'agit là de construire et de maintenir pour les élèves un cadre de travail, c'est-à-dire un temps, un espace, un adulte disponible, une définition de ce qu'on est censé faire ici et de ce qu'on est censé ne pas y faire. Et on invite ou on contraint les élèves à s'y inscrire et à s'y maintenir dans ces dispositifs. On dispose là d'un adulte totalement disponible aux élèves. Les élèves ne sont pas forcément aussi disponibles, on y reviendra. La dimension relationnelle, ça a été évoqué, est très importante. Au point d'ailleurs qu'on peut parfois, dans tel ou tel établissement, se poser la question d'une éventuelle hypertrophie du relationnel qui peut faire écran à d'autres exigences plus cognitives. Mais en même temps que le cognitif, dans ces dispositifs d'étayage, en même temps que du cognitif, il y a de l'identitaire. L'élève n'est pas disqualifié. Je crois que ça, dans tous ces établissements, les élèves peuvent dire « on ne me renvoie pas perpétuellement à mon échec ». Qu'on soit ancien décrocheur, qu'on soit interne d'excellence avec quelques difficultés, qu'on soit élève dans un RRS ou dans un collège lycée expérimental, les élèves ne sont pas disqualifiés. On croit en l'élève, en sa réussite possible, et on fait sentir à l'élève que sa réussite compte pour les enseignants. L'encouragement est constant, et on aide l'élève aussi à échapper aux tentations de l'esquive du travail. Je pense à cet établissement dans lequel les études encadrées ont été extrêmement organisé, 2 salles de classe par soirée, par niveau de classe. Donc les élèves de 5e, tous les internes de 5e sont dans 2 salles de classe, à leur disposition 2 ou 3 adultes, enseignants de diverses disciplines. Et pour vraiment encourager les élèves à ne pas se précipiter, « Viens, madame, venez m'aider », premier quart d'heure, personne ne demande rien. Et de toute façon, les enseignants ne font pas droit aux demandes des élèves. D'ailleurs, il s'agit vraiment d'encourager les élèves à se mettre au travail et de trouver l'organisation nécessaire pour cela, ce qui éventuellement n'évite pas aux élèves de trouver des stratégies pour contourner, comme cet élève qui prend son roman et qui, au bout d'une dizaine de minutes, demande à sa voisine « Est-ce que le quart d'heure est passé ?» Donc, une offre cognitive importante, abondante, qui peut avoir quelques effets négatifs cependant. D'une part, et ça Laurent Lesquarche l'évoquait hier, l'idée que on va travailler plus pour réussir plus. Et y a un souci de la part des équipes de compenser des conditions défavorables d'enseignement dans les milieux d'origine. Et les élèves eux-mêmes adhèrent à cette idée. Si on travaille plus, on va réussir. Convaincus qu'ils sont que l'école est une machine qui a un certain nombre d'exigences auxquelles il faut répondre. Et si on y répond, même si c'est formel, eh bien, on va réussir. Deuxième effet qui peut être, alors là, un effet pervers, c'est que l'investissement des élèves en classe peut être limité par la réalité, par la conviction qu'ils ont, qu'ils vont disposer d'un soutien à l'extérieur de la classe. Et du coup, l'élève peut être largué en classe et laissé faire. Il y a une dynamique moins forte de la classe. Et puis surtout, l'enseignant est moins à même de se rendre compte du fait qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été saisies. L'élève ne dit rien en se disant, de toute façon, en soutien, on va m'expliquer. Et puis, cela a pu être également constaté, certains enseignants vont avoir tendance à renvoyer au soutien, au dispositif d'aide, un certain nombre de choses, parce qu'on n'a pas le temps de faire tout en classe. Donc voilà. Voilà pour le cognitif. Et on voit bien que dans ces soutiens cognitifs, il n'y a pas que du registre cognitif qui est engagé. Dans le culturel, alors, on a... Je dirais globalement, encore quand on voit les dispositifs, des acceptions différentes du travail sur le registre culturel. Il y a d'une part l'ouverture par l'assistance à des spectacles, à des manifestations, à des expositions. On pourrait dire l'ouverture à la culture légitime. Ça a pu être évoqué hier. Mais ce qui paraît plus fécond, c'est-à-dire moins... rester en surface pour les élèves, c'est l'engagement direct dans une réalisation et dans une réalisation exigeante. Alors ça peut être dans tel ou tel internat d'excellence ou dans un établissement pour raccrocheurs, la réalisation d'une pièce de théâtre, pas de scénette, une pièce de théâtre, ou l'implication dans une action de protection de l'environnement, une réalisation musicale, un spectacle de danse, une réalisation vidéo, une fouille archéologique, un plan d'urbanisme, des réalisations en art plastique ou en photo, ou bien encore la constitution d'un jury de procès, etc. Et ces ateliers, alors appelons-les comme ça, ils peuvent prendre différents noms, ont pas mal d'avantages pour les élèves. D'une part, ce sont des ateliers... pour la participation à laquelle il ne faut pas de prérequis. Autrement dit, on n'a pas de lacunes. On peut s'y affronter à une épreuve en vraie grandeur, avec un professionnel, et un professionnel qui n'est pas un professionnel de l'école, qui n'est pas un professeur. Les enseignants sont aussi des professionnels, mais un professionnel du théâtre, de l'urbanisme, etc. Ça permet à l'élève de tenir sa place dans un collectif et en ressentant bien que c'est essentiel pour tous, c'est-à-dire que si lui ne tient pas sa place, c'est le collectif qui coule. Et on est bien là dans du culturel en même temps que dans du symbolique identitaire. Chacun se voit reconnaître une place. Symbolique identitaire maintenant, troisième point, après le cognitif et le culturel. Les élèves donc sont impliqués dans des ateliers dont l'effet sur le plan identitaire peut être important, mais ils peuvent être impliqués aussi, chacun et en groupe, dans des instances de parole ou des instances de régulation de la vie de la classe, de la vie de l'établissement. Instances dans lesquelles chaque élève est invité à dire « je ». Et il est écouté comme tel. Et chacun est appelé à prendre sa place dans le collectif. Le symbolique identitaire est également marqué par le fait que dans ces établissements, on a une attention souvent très forte à chaque élève, à son bien-être, à ses malheurs scolaires, amicaux, familiaux. Chaque élève sait, se rend compte qu'il compte pour les adultes, qu'on l'attend, qu'il a sa place. Et s'il n'est pas là, il manque. Non pas il manque l'école, mais il manque aux autres. Troisième point de cette espèce de mise à plat, après profil et les étayages prodigués, les résultats. D'abord, je voudrais faire une remarque. Les résultats sont bien sûr dans des domaines très différents ou sur différents registres cognitifs, culturels, identitaires ou symboliques. Et on n'attend pas, d'une certaine manière, les mêmes résultats dans les différents types d'établissements. Dans les établissements pour aider des élèves à raccrocher, on va bien sûr s'intéresser aux résultats scolaires, mais on ne s'y limitera pas, et ça a été évoqué par Ariel Comperon il y a un instant. On trouve qu'il y a des réussites qui n'ont rien à voir avec la réussite scolaire et qui ne sont pas moins de véritables réussites. En revanche, dans des internats d'excellence, les attentes sont plus directement sur la réussite scolaire de la part des élèves, de la part des parents et aussi de la part des enseignants. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger les autres dimensions de la réussite, mais on pourra mettre davantage celle-là en avant. Les résultats en termes de réussite sont contrastés. On peut repérer des groupes. Une étude faite dans un internat d'excellence montre que si on essaye de voir comment les élèves se situent dans leur classe au fil des ans, c'est-à-dire sur 3 ans, est-ce qu'ils sont dans le premier quart de leur classe, dans le deuxième quart, dans le troisième quart ou dans le quatrième quart? Tout ça, entre parenthèses, pour éviter de se baser uniquement sur les notes qui varient beaucoup avec les exigences des années et avec les exigences différentes des enseignants. Donc si on essaye de placer les élèves dans leur classe, on s'aperçoit que sur 3 ans, eh bien, une partie des élèves s'installe dans le premier quart ou dans le deuxième quart, et une autre partie des élèves, un peu moins forte, s'installe dans le troisième ou le quatrième quart. C'est-à-dire, au fond, les élèves progressent relativement peu. Ceux qui étaient bons restent bons. Ceux qui étaient en difficulté restent en difficulté. Et il y a peu de passages de la deuxième moitié de la classe à la première moitié. Ou alors, dans un établissement de raccrochage, ben ça a été montré par Ariel Comperan il y a un instant, la plupart de ceux qui arrivent en terminale réussissent le bac, mais il y a d'autres sorties vers des formations, et des formations qui peuvent être des formations professionnelles, mais ce sont des formations professionnelles qui sont choisies par les élèves, vers lesquelles ils n'ont pas été orientés ou relégués. Et puis il y a aussi des abandons ou des exclusions en cours de route. Concernant les résultats, le regard du pédagogue ne peut pas être le regard du chercheur, et le regard du chercheur ne peut pas être le regard du pédagogue. Quand, il y a un instant, je disais, dans un établissement, on a des élèves qui restent finalement un peu désespérément dans le premier quart ou dans le troisième quart ou le quatrième quart de la classe, je le fais de l'extérieur, en ayant regardé des tableaux de résultats, etc., en ayant étudié de près les bulletins scolaires. Et si j'en parle aux enseignants, ils me disent « Ah oui, c'est vrai, lui, il est toujours bien dans le troisième quart. » Mais quand même, il progresse. Il a progressé, elle a progressé. Et je ne désespère pas. Et c'est tout à l'honneur des pédagogues de faire ça. C'est-à-dire que les pédagogues s'adressent à des individus, à des personnes, c'est Pierre, c'est Paul, c'est Mohamed, c'est Nouria qu'ils ont devant eux. Les chercheurs essayent de globaliser davantage et ne peuvent pas avoir le même regard. Ça ne veut pas dire qu'il y a un regard qui est faux et un regard qui est juste. Ça veut dire que tout regard est fatalement incomplet et que le regard que l'on porte est à partir de l'objectif professionnel qui est le sien. Façon de dire d'ailleurs que les chercheurs ont un avantage et un inconvénient par rapport aux acteurs de terrain. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas sur le terrain, et l'inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas sur le terrain. Voilà. Ils n'ont fatalement pas le même point de vue, et donc ils regardent les choses, comme dirait Bourdieu, un point de vue, c'est une vue à partir d'un point. Ils ne regardent pas les choses à partir du même point, et donc ils ne voient pas exactement les mêmes choses. Et des différences de point de vue n'ont rien à voir avec des jugements. De quel droit, d'ailleurs ? Alors, en termes de résultats, quels que soient les établissements, on n'a pas forcément les résultats qu'on attendrait, pas forcément, surtout vu de l'extérieur, les résultats auxquels on s'attendrait au regard des moyens qui sont engagés, en termes en particulier de mobilisation professionnelle, des enseignants, des CPE, de l'encadrement, de certains partenaires. Et on peut se demander comment cela se fait, qu'alors qu'ils ont les mêmes soutiens, comment se fait-il qu'ils aient des résultats aussi, aussi différents? Alors, on peut être tenté de le renvoyer à l'élève, soit à ses dispositions plus ou moins grandes, soit à son histoire singulière. On voit bien que ce n'est pas complètement satisfaisant. Ou bien à son milieu, on peut le renvoyer à son milieu professionnel, mais ils sont dans des milieux comparables. Et puis, ça serait un déterminisme un peu lourd en termes d'analyse. Ou bien, c'est que les étayages qui sont proposés ne sont pas toujours placés là où ils seraient utiles pour les élèves. Alors, terminer la mise à plat de cette façon-là m'amène à la deuxième partie sur quelques thèmes de réflexion ou d'action qui sont, me paraît-il, diversement empoignés dans ces établissements. Je voudrais évoquer quatre questions. La question du temps, la question de l'individualisation, celle du collectif et celle de l'échange. La question du temps. On observe dans les établissements une forte tension entre deux choses. D'abord, l'urgence de résultats immédiats. Les élèves le souhaitent, le réclament. On veut se préparer aux examens, on veut se préparer au contrôle et on veut avoir des bonnes notes. Et puis, les enseignants se sentent aussi pris dans cette affaire-là. Ils, d'une certaine manière, avoir des meilleures notes, quand les élèves ont des meilleures notes, les enseignants y trouvent leur compte parce que ça traduit finalement la réalité de leur action et du soutien qu'ils ont prodigué. Mais donc il y a tension entre l'exigence de résultats immédiats, donc à court terme, et la consolidation pour une meilleure compréhension, pour l'approfondissement, pour l'appropriation, ou pour le passage de mémoriser à savoir. Alors, on s'efforce, tant bien que mal, de tenir les deux exigences à la fois, mais il n'est pas exceptionnel à l'observation que l'une l'emporte sur l'autre, et l'une, c'est plutôt l'attente de résultats immédiats. Et on entend dans les différents établissements des propos de ce genre, on n'a pas le temps de revenir sur les lacunes qui bloquent la progression, ou bien ce temps, on ne le prend pas. Et donc, du coup, les élèves, on les contient, au sens de, on leur évite de s'écrouler, et c'est pas rien. Mais on ne leur permet pas forcément de progresser comme ils le pourraient. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a mis à profit le temps, on essaye ou on parvient à mettre à profit le temps, en particulier dans les internats où les élèves demeurent plusieurs années, pour se donner les moyens d'ajuster soit les aides, soit les stimulations à ce que chaque élève nécessiterait. Et est-ce qu'on se donne le moyen de penser le soutien dans la durée? Alors, je vais prendre deux exemples. L'exemple d'un élève qui est extrêmement travailleur, très accroché à son travail. Et depuis 3 ans qu'il est là, on entend toujours « cet élève manque de méthode ». Il manque toujours de méthode. Ou alors... tel autre élève, extraordinairement agréable, hyper sérieuse, vraiment l'élève que tous les enseignants ont envie d'avoir, et qui cependant, on voit pointer une difficulté, c'est que, une enseignante de mathématiques l'exprime de cette façon-là, elle met la conclusion avant l'hypothèse. Alors, elle fait toujours très bien son travail, elle est irréprochable. Il y a cette difficulté qui risque de l'empêcher de progresser vers l'orientation qu'elle souhaite avoir. Donc, on est pris ou on se laisse prendre par les contraintes du résultat immédiat ou à court terme. Voilà. Et de ce point de vue, un établissement peut être assez intéressant, celui dont a parlé Ariel Comperon, dans la mesure où il maintient les élèves, par exemple, dans un module de raccrochage, le temps qu'il faut pour leur permettre de devenir ou de redevenir élèves, de prendre la scolarité à leur propre compte et de devenir ou de redevenir des sujets dans l'école. Et c'est dans la logique de l'affaire, et je l'évoque parce que ça a été évoqué dans un atelier hier, il y a des établissements, le CLEP en est, ça peut arriver aussi ailleurs, où on se défait un tout petit peu de la contrainte, de l'urgence absolue des programmes, on s'en affranchit en se concentrant sur les aspects essentiels du programme. Disons, si les élèves ont compris ça, ça va. Et éventuellement, là encore, avec des différences dans les établissements, on s'affranchit du poids de l'évaluation notée, dont on sait les effets ravageurs sur les élèves. Alors, donc, on essaye de la contourner parce qu'elle tend à surdéterminer le rapport de certains élèves à des apprentissages. Et puis, mais on n'a pas le temps de l'aborder, donc je ne fais que l'évoquer. On ne prend pas forcément non plus le temps de faire ce qu'évoquait Laurent Lescouart hier, c'est-à-dire le désétayage. On entend beaucoup dans les entretiens, ici et là, la question comment elle va faire pour, ou comment il va faire pour se passer de nous quand il aura quitté l'établissement. Pour l'instant, ça va. Mais quand on aura enlevé les béquilles, qu'est-ce qui se passera? Voilà pour la première question. Deuxième question concerne l'individualisation, qui est un maître mot dans l'école aujourd'hui. Et on sait effectivement, la réussite ou l'échec, c'est une aventure individuelle qui se déroule certes dans un contexte social, à la fois proche, la classe, l'établissement, hein, moins proche, le milieu moins proche de la classe, le milieu familial, le milieu social. Et on sait bien que seul l'élève peut décider de s'engager dans le travail. On ne s'engage pas dans le travail pour, à la place de quelqu'un d'autre. Et on disait hier, on ne fait pas boire un... Ça a été un cheval, ça a été un âne. En tout cas, on ne fait pas boire un équidé qui n'a pas soif. Donc, mais... On demande aux élèves d'être acteurs de leur scolarité. Est-ce qu'on ne fait pas parfois comme si l'élève s'était déjà construit comme individu et plus précisément comme sujet? Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aider à cela? Et faute d'y prendre attention, l'individualisation se traduit souvent de deux façons. Une très forte attention à la personne de l'élève, incontestablement. Incontestablement, la bienveillance est présente de diverses manières dans tous ces établissements. Attention à la personne de l'élève, à son bien-être, pour qu'il se sente soutenu. Attention à ses conditions familiales. On a une disponibilité extrême des adultes. Mais pas forcément un repérage précis des difficultés et des besoins des élèves. Et comme on n'a pas forcément toujours le temps, ou on ne s'organise pas pour, ou on ne prend pas le temps, je renvoie à ce propos d'un interviewé, eh bien, on s'appuie beaucoup sur l'informatique. Et on fait travailler les élèves sur des logiciels informatiques qui peut être un appui extraordinairement utile, puisque l'élève se trouve confronté à ses propres difficultés, mais à l'observation, l'usage de l'informatique et des logiciels d'apprentissage peut être parfaitement féconde ou parfaitement inféconde quand les élèves jouent finalement un jeu de questions-réponses et quand ils ont la bonne réponse, ils ne savent pas pourquoi c'est la bonne réponse. Et quand ils ont une mauvaise réponse, ils savent simplement que la réponse n'est pas la bonne. Et donc ils en cherchent une autre. Autrement dit, l'informatique peut jouer un rôle favorable, mais pas fatalement. Troisième grande question, Quelle place les élèves peuvent-ils prendre ou prennent-ils dans un collectif ? L'idée peut être, mais parce que c'est aussi dans l'air du temps de l'école et dans l'air du temps plus généralement, l'idée peut être que c'est en s'adressant à l'individu qu'on va lui permettre de grandir. Certes, mais les élèves grandissent aussi dans un collectif. Et il arrive qu'on ne renvoie les élèves au collectif que quand ils sont perturbateurs, mais pas à d'autres moments. Pas quand ils sont d'une certaine manière constructeurs. Alors, c'est vrai que les élèves n'ont pas forcément partant pour être dans un collectif. Ils peuvent apprécier d'échapper à des collectifs, d'une part parce qu'ils sont pas mécontents, par exemple, dans un internat, d'échapper à leur collectif natif, naturel, comme la famille, être à distance de la famille. Mais ils peuvent aussi être contents d'échapper à des collectifs dans la mesure où ceux qu'ils ont connus, parfois ceux qu'ils ont subis, sont des collectifs où s'exerce une tyrannie de la majorité et où il n'y a pas de place pour le désir d'excellence scolaire qui, eux, les anime. D'où la tendance de certains élèves au repli sur tout ce qui est prise en charge individuelle. Mais ce n'est pas forcément de soi fécond. Et on peut, dans tel ou tel établissement, se demander si on ne fait pas comme si chaque élève était tout seul face à ces difficultés. Il peut y avoir du travail collectif, relativement peu fréquent, alors avec des différences selon les internats d'excellence, avec une entraide ou avec une émulation, mais pas beaucoup de constitution de collectif sur des choses qui sont sans rapport direct avec le scolaire. Or, il y a des collectifs dans certains établissements qui sont plus ou moins organisés, plus ou moins pensés comme partie intégrante de la vie de l'élève et de sa scolarité. Alors, soit des collectifs pour apprendre à plusieurs, s'encourager mutuellement, s'entraider, apprendre, mais plus encore des collectifs où on va vivre dans une collectivité d'élèves qui se construit peu à peu et dans laquelle on se confronte dans des instances qui sont réglées et qui sont régulées. Et là, l'élève, en tant qu'individu, je dirais en tant que sujet, se construit avec d'autres. Et dans ces instances, les élèves sont avec ou en face d'un collectif d'adultes qui sont eux-mêmes en collégialité. Et c'est sans doute là le lien que tu évoquais tout à l'heure, avec une réflexivité collective, au fond une sorte de collégialité en miroir. Là, le collectif des élèves, le collectif des enseignants. Et ces collectifs de vie, de classe, d'établissement, qui permettent à l'élève de dire « je », de se situer parmi les autres, de prendre sa place, d'entendre les autres lui dire les choses, permettre à l'élève de se construire, permettre à l'élève d'être dans l'échange. Ce sont des espaces qui ne sont pas scolaires et qui sont pourtant des espaces de requalification symbolique. Et cela peut avoir des effets en classe. On peut dire que, au fond, c'est transposable en classe. Tout ce qui est fait dans un dispositif annexe n'est pas forcément transposable en classe, mais là, on peut penser que c'est transposable quand on appartient toujours au collectif. Ce n'est pas scindé. Dans ces collectifs sont en jeu du symbolique et de l'identitaire, je crois l'avoir dit, mais aussi certainement du culturel. Ce sont des espaces où on discute sur la vie de la classe, sur la vie de l'établissement, on argumente, on analyse, on distingue de fait les plans de réflexion, et si on n'est pas porté à le faire, on est invité par les autres à le faire. J'irai jusqu'à faire l'hypothèse, qui mériterait bien entendu d'être vérifiée, que le taux de réussite plus élevé au bac littéraire dans un établissement comme le CLEPT, plus élevé qu'ailleurs, alors qu'il est égal à ce qu'il est ailleurs en section économique et sociale et inférieur en section scientifique, je ferai donc l'hypothèse que ce taux pourrait avoir quelque chose en lien avec le fait que c'est un établissement où on a des instances collectives dans lesquelles on échange, on argumente. On polémique, mais on se confronte. Si j'avais le temps, mais je ne l'ai pas, je dirais que parfois, il arrive des établissements où on puisse confondre le collectif et l'entre-soi, et ce n'est pas forcément la même chose, on y reviendra peut-être dans la discussion. Et je finis par le dernier point, c'est la question de l'échange. L'échange est au cœur du social, on fait société dans et par l'échange, et l'échange est une condition importante de la reconnaissance. Certains élèves sont dans l'échange. D'un côté, on les aide. Ils sont demandeurs, même acteurs de leur demande, en dépendance, cependant, de celui qui apporte son aide. Et d'un autre côté, eux-mêmes, ils apportent quelque chose au collectif, alors par la parole, par la participation à la régulation. Ils ont à prendre une initiative, de prendre la parole, de se situer. Ce faisant, je l'ai dit, ils se requalifient symboliquement. Et c'est une requalification symbolique qui est alternative à la requalification qu'ils pourraient trouver dans des groupes en dissidence avec l'école. Anciens décrocheurs, hors de l'école, ils se requalifiaient en fréquentant d'autres décrocheurs. Là, ils peuvent se requalifier à l'intérieur de l'établissement. Et ils reconnaissent, on reconnaît leur capacité à apporter, à contribuer à l'œuvre collective, dans les ateliers ou dans ces groupes. Au fond, eux-mêmes apportent quelque chose. Et donc, on leur apporte, ils apportent. Et dans d'autres établissements, on a l'impression que l'échange qui est demandé à l'élève est un peu en décalage, c'est-à-dire déséquilibré. C'est-à-dire on les aide et on leur demande de se mobiliser, mais la mobilisation ne vient guère. Et on s'en lamente d'ailleurs, même s'ils y sont fortement encouragés. Mais on peut se demander si on n'est pas en train de demander aux élèves de se comporter en sujet de leur propre scolarité, sans qu'ils aient eu des occasions de se comporter en sujet tout court au sein de l'établissement. Ils restent l'objet d'une politique extrêmement attentive, extrêmement attentionnée, extrêmement bienveillante, mais tout se passe comme s'il n'y avait pas d'échange de disponibilité, en quelque sorte, ou un échange déséquilibré de disponibilité, des enseignants qui sont extrêmement là, prêts à expliquer, à aider, à soutenir, et des élèves dont la disponibilité pour certains est extrêmement forte. Ils sont prêts à tout, ils sont preneurs du tout, ils s'engagent dans l'établissement, ils s'engagent dans les ateliers qu'on leur propose, ils s'engagent dans les activités, ils prennent des responsabilités. Et puis d'autres qui ne sont finalement disponibles à pas grand-chose, et les équipes peuvent se désespérer parfois de ne pas être dans un échange un tout petit peu plus équilibré. Merci.
Merci à tous les trois, merci à Dominique pour sa légendaire capacité à rassembler un certain nombre de